Salut, c'est Antoine d'Europod. Avant de profiter de votre podcast, laissez-moi vous dire un mot sur Explique-moi l'Europe, le podcast pédagogique sur l'Union européenne. À quelques mois des élections, un excellent moyen de tester et d'affiner ses connaissances, Explique-moi l'Europe, disponible maintenant sur toutes les plateformes d'écoute.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Europod.
Le 14 novembre 2012, à travers toute l'Europe du Sud, sur des pancartes, on lit « Pour l'emploi et la solidarité en Europe ». Et en gros caractères blancs sur fond rouge vif, non à l'austérité. Ma question à Angela Merkel.
My question to Angela Merkel.
La mia domanda ad Angela Merkel.
Mi pregunta Angela Merkel.
Une série Europod. Épisode 6, Engie et la crise financière, l'européenne récalcitrante. Tout d'abord, je dois vous ramener là où tout a commencé. En 2007, les dirigeants n'ont toujours pas réalisé ce qui se prépare. Ils n'imaginent pas que ce qui semblait solide hier puisse soudainement s'effondrer sans prévenir. En 2007, le marché américain s'effondre. Ainsi commence la crise des subprimes. Bon, la finance, c'est pas vraiment mon domaine. Mais heureusement, il y a Martin.
Écoute, c'est assez complexe, mais je vais essayer d'être le plus clair possible. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au cours des 5 dernières années qui ont précédé le krach financier, l'argent n'était d'une certaine manière pas cher. En Europe, mais plus particulièrement aux États-Unis, les banques ont alors donné beaucoup d'argent, fait beaucoup de prêts, et ça peu importe si les entreprises ou les ménages avaient effectivement la possibilité de les rembourser. Ces prêts, qui étaient des prêts à risque, étaient évidemment problématiques, et comme ils étaient plus risqués, leur taux d'intérêt pouvait varier dans le temps. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir de fin 2007, début 2008, certains ménages aux États-Unis n'ont pas pu rembourser ces prêts, et en l'espace de quelques mois, il y a de plus en plus de banques qui ont déposé le bilan, et puis c'est le système entier qui s'est effondré, et la crise qui a commencé aux États-Unis a rapidement affecté les banques européennes.
Puis l'histoire commence à s'accélérer. La Banque Centrale Européenne, la banque publique de l'UE qui supervise l'euro, injecte 95 milliards d'euros dans les banques européennes pour éviter qu'elles ne s'effondrent. Mais ce n'est pas suffisant. C'est au printemps 2008 que le véritable crash se produit. En Allemagne, les banquiers se précipitent à Berlin pour voir Angela Merkel. Tous ont la même requête. Ils sont à court d'argent. Ils ont besoin que le gouvernement leur fournisse des fonds en urgence. Sinon, ils s'effondrent, entraînant avec eux toute l'économie du pays. Angela Merkel est pointue sur le sujet et comprend les problèmes systémiques auxquels les banques sont confrontées. Et pourtant, selon plusieurs sources, elle n'a jamais fait confiance aux banquiers. En France et en Italie, les grandes banques entretiennent des relations étroites avec la sphère politique. Leurs gouvernements respectifs sont très protecteurs envers elles. Ainsi, si le président français, par exemple, avait voulu comprendre la crise, il aurait pu appeler directement les PDG des banques pour se faire briefer. Ce n'est pas le cas en Allemagne. Quand j'en ai parlé avec la mercurologiste et journaliste Florence Autré, voici ce qu'elle m'a dit.
J'imagine qu'elle a essayé de le faire, mais elle n'avait pas confiance dans les banquiers. Il y avait des raisons de ne pas avoir trop confiance dans la Deutsche Bank. Il s'est avéré que le système bancaire allemand était complètement fragile et en partie corrompu.
Notre éternel intello se tourne vers ses livres pour comprendre la crise.
Donc elle se renseigne pour essayer de comprendre ce qu'il y a de systémique dans cette crise. Et elle lit des mathématiciens qui ont passé le système financier au crible de l'analyse physique, en fait. Donc c'est assez étonnant. C'est aussi intéressant, en fait, qu'elle ait cette modestie, hein, quand même, d'essayer de saisir les trucs. Mais je crois qu'elle avait confiance en personne à ce moment-là et elle voyait juste que c'était très grave.
Et c'est ainsi que l'Allemagne commence à sauver ses banques.
Et donc, là, je dis là, elle a un scepticisme scientifique parce que son réflexe n'est pas de croire le premier venu. Parce que les gens défilaient chez elle pour demander de l'argent, parce que l'Allemagne a débloqué plus, en tout cas théoriquement, plus d'argent pour ses banques qu'aucun autre pays européen.
L'Allemagne débourse 80 milliards d'euros en espèces et 400 milliards de cautions pour éviter que ses banques ne s'effondrent. Pour Angie, c'est une affaire réglée. C'est comme ça que les choses vont se passer. Chacun s'occupe de ses banques, un point c'est tout. Mais voilà. Ce n'est pas si simple, parce que tout le monde en Europe n'a pas les moyens de sauver ses banques.
En ces circonstances exceptionnelles, où la nécessité d'agir s'impose à tous, j'appelle l'Europe à réfléchir sur sa capacité à faire face à l'urgence.
À ce moment-là, le président français Nicolas Sarkozy tient la présidence de l'UE. C'est alors qu'il a l'idée de créer un budget commun.
L'Europe doit se donner les moyens d'agir.
Tous les membres de l'UE contribueraient afin que les pays les plus fragiles puissent sauver leurs banques. Il se fait le défenseur de l'Espagne, de l'Italie et du Portugal qui pâtissent le plus de la crise. Mais Angie ne veut pas en entendre parler.
Ce qu'elle ne voulait pas aussi, c'était mettre de l'argent allemand, par exemple, dans des banques françaises ou italiennes. Je pense qu'elle s'est rendue compte, comme nous tous à l'époque, il y avait tout un tas de gens qui mentaient, qui dissimulaient depuis des années, qu'en fait, on ne savait pas quelle était l'ampleur des trous. À la crise de 2008, on a arrêté de sortir des cadavres, des placards, des filiales lichées dans les paradis fiscaux, je ne sais où, pendant... Ça a duré. Donc, il y avait un problème, quoi.
Elle déclare très clairement être totalement hostile à l'idée d'un budget commun. Alors, quand Sarkozy organise un sommet à Paris, elle y va à reculons. Mais un événement va la faire changer d'avis. Et ce n'est pas un discours émouvant sur la solidarité européenne. Non. En fait, c'est un SMS. Plusieurs SMS, en fait. Ses deux conseillers s'approchent et lui apprennent la nouvelle. Hypo Real Estate, un holding bancaire allemand, est sur le point de faire faillite. C'est une question d'heures. La tension politique est élevée. Les élections régionales en Bavière sont dans quelques jours. Et bientôt, elle devra rendre compte aux députés du Bundestag. D'accord. Mais ça allait être la dernière banque qu'il sauverait comme ça. Il fallait élaborer un meilleur plan. Maintenant, arrêtons-nous une seconde. Comment la situation a-t-elle pu dégénérer à ce point pour l'UE ?
Écoute, premièrement parce que les pays membres ont été touchés de manière très différente. Pourtant, depuis 2002, tous ces pays y partageaient tous une monnaie commune, l'euro. Mais ce que ça signifie, c'est que les économies des pays européens étaient alors très interdépendantes. Si l'économie d'un pays de la zone euro s'effondrait, eh ben, ça déclencherait un effet domino qui finirait par l'effondrement des pays de l'UE l'un après l'autre.
L'effondrement des pays de l'UE l'un après l'autre. Mais on n'en est pas encore là. Pour l'instant, le problème est celui-ci. L'UE a une monnaie commune. Mais elle n'est pas finalisée, disons. Elle dispose d'une banque centrale commune, indépendante des États membres, et qui a pour mission d'assurer la stabilité de l'euro et d'éviter une inflation trop élevée. Mais contrairement aux États-Unis, l'UE n'est pas un gouvernement fédéral. Sa banque centrale ne peut pas transférer d'argent des pays les plus riches vers les pays les plus pauvres. Ou faire en sorte que le bloc adopte une politique fiscale commune, une politique de chômage commune, etc. Ainsi, même si la Banque centrale peut aider avec un peu de magie financière pour mettre des euros supplémentaires dans le système, cette action ne peut à elle seule résoudre les problèmes de la monnaie unique européenne.
Oui, mais tu vois, lorsque l'Hypo Real Estate s'est effondré, ça a rapproché un peu la situation de l'Allemagne de celle des autres, en fait. Et à ce moment-là, une porte s'est en quelque sorte entrouverte, et ça a laissé juste assez d'espace pour espérer qu'Angie adopte une solution européenne.
Cependant, elle prend son temps pour y réfléchir. C'est une urgence et elle prend son temps. Évidemment, ça agace tout le monde. Jusqu'à son plus proche allié européen, Jean-Claude Juncker. Il a été le premier ministre luxembourgeois le plus longtemps en poste, mais plus encore, un leader politique européen clé pendant plusieurs décennies. Il a été le président de la Commission européenne de 2014 à 2019.
Chez elle, ça m'a souvent énervé, comme elle est scientifique. Elle a pensé les problèmes par leur probable dernier moment d'éclosion d'une solution qu'on pouvait apporter au problème. Alors que nous autres, on était très portés sur le court terme, sur le moyen terme, elle raisonnait toujours à partir de l'ultime étape. Ce qui a fait qu'elle posait beaucoup de questions, parfois gênantes, aux autres, et ce qui a fait qu'elle a évolué par étapes de savoir, si j'ose dire, de connaissance. Donc elle n'était pas parmi celles et ceux qui, dès le début, savaient ce qu'il fallait faire. Mais elle déclinait les problèmes au rythme du temps.
C'est vrai, Merkel est physicienne et elle veut prendre le temps de comprendre toutes les issues possibles de ses décisions. Et en plus de ça, quelqu'un lui chuchote constamment à l'oreille. Son ministre des Finances, Wolfgang Schäuble. Vous vous souvenez de lui ? Il était le chef de la CDU, après Helmut Kohl, avant que Merkel ne prenne le poste.
Moi, je crois qu'elle a pris son temps aussi, parce qu'il y avait quelqu'un qui lui soufflait à l'oreille, Schäuble probablement, et peut-être qu'elle n'avait même pas besoin de lui, que ça aurait été contraire à la souveraineté budgétaire du Bundestag, de balancer de l'argent allemand dans des banques françaises, qui n'étaient même pas régulées à l'époque par la Banque Centrale Européenne, donc sur lesquelles ils n'auraient aucun pouvoir.
Schäuble et Merkel sont tous les deux favorables à des mesures d'austérité strictes, ce qui implique des coupes sévères dans les dépenses publiques. Concrètement, ça veut dire moins d'emplois publics, des baisses de salaires et de retraites et des impôts plus élevés sur les foyers. Bon, on fait une pause. Je vais vous laisser écouter un enregistrement d'Alexis Tsipras, l'ancien Premier ministre grec. Je n'en croyais pas mes oreilles quand ils m'ont dit qu'ils m'accorderaient un entretien. Voilà ce qu'il a dit lorsque nous avons parlé de la façon dont Merkel a géré le crash financier.
Je pense que la façon dont l'Allemagne, sous la direction d'Angela Merkel, gérait la crise de la dette à partir de 2009 ne peut certainement pas être considérée comme la plus grande réussite de ces 16 ans de mandat. Car surtout aujourd'hui, avec l'évolution de la pandémie et la manière dont l'Union européenne a géré la crise économique, que cette pandémie a provoqué, on se rend compte que les obsessions de l'Allemagne, notamment pendant la crise de la dette, dans sa logique d'austérité, mais aussi dans sa logique de ne pas échapper au dogme de la politique monétariste. Ces obsessions n'ont pas aidé l'Europe.
Ce qu'il fait valoir, c'est ça. L'Allemagne semble obsédée par les mesures d'austérité. Et croyez-moi, ce que je vous raconte pour l'instant n'est que la pointe de l'iceberg. Il y a plus à venir. Mais il y a une explication historique à cela. En matière de monnaie, l'Allemagne est une grande traumatisée de l'histoire. Cela remonte à l'hyperinflation de 1923. Une hyperinflation, c'est quand une monnaie perd complètement sa valeur. Peut-être que vous vous souvenez de cette photo dans votre manuel d'histoire. La photo d'un homme portant une brouette remplie de Deutsche Mark juste pour aller acheter du pain. Mais juste au moment où Angie pense que la situation a touché le fond, eh bien, elle empire. Dans la nuit du 10 décembre 2009, le Premier ministre grec fraîchement élu, Georges Papandréou, arrive à Bruxelles. Il apporte une nouvelle désastreuse. Les gouvernements qui ont précédé ont menti. Le déficit public n'est pas à hauteur de 6 ou 7% du PIB comme annoncé, ce qui est déjà très alarmant. C'est bien pire. Deux fois pire pour être précis. Le déficit grec représente 12% de son PIB national. Un quart des dépenses publiques dépassent leurs revenus. Angie n'en croit pas ses oreilles. Elle n'aime pas qu'on lui mente. Et ça dépasse tout ce qu'elle aurait pu imaginer. C'est le début de ce qui aurait pu être la fin de la zone euro. C'est la crise grecque. Ma question à Angela Merkel.
My question to Angela Merkel.
La mia domanda ad Angela Merkel.
Mi pregunta Angela Merkel.
Une série Europod.
Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out at the French Open for a chance to win a Grand Slam title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. See the action unfold as legends fight for glory and new rivalries emerge. Daily live coverage begins Monday, May 20th, with match replays on demand so you never miss a moment. From the first serve to the final point, Roland Garros promises unforgettable moments and new chapters in tennis history. Stream now with Tennis Channel Plus to be there when it happens.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Vous voulez entendre plus de podcasts qui vont au fond des choses, qui se distinguent du bruit ambiant ? Rejoignez Europod. Abonnez-vous sur Apple Podcasts et Spotify ou à notre newsletter. Suivez-nous sur LinkedIn, sur Twitter ou sur Instagram. Découvrez notre site internet le www.europod.eu. Europod, filtrez le bruit, commencez à écouter.